France Inter, le 13-14. Bruno Duc.
Alors que le gouvernement n'exclut pas de nouvelles mesures de restriction et accélère le calendrier, projet de loi sur le pass vaccinal en Conseil des ministres dès la semaine prochaine, pas de trêve des confiseurs. Autre chiffre clé, plus de 3000 patients en service de soins critiques à l'hôpital. C'est une première depuis le mois de mai. Notre invité jusqu'à 13h45 est la chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour Karine Lacombe.
Oui, bonjour.
D'abord état des lieux chez vous à l'hôpital Saint-Antoine, où en est-on ?
Mais écoutez, on a augmenté le nombre de lits. Depuis le mois de décembre, on ouvre à peu près une dizaine de lits de plus par semaine.
Oui.
Donc on est actuellement à une quarantaine de lits ouverts hors réanimation.
Oui.
Puisqu'en réanimation également, on est en train de déprogrammer de la chirurgie non urgente de façon à pouvoir ouvrir des lits dans des espaces qui habituellement faisaient du post-opératoire.
Et ces ouvertures de lits, c'est pour les jours qui arrivent là ?
Alors en fait, c'est pour dès maintenant, puisque oui. On voit que le flux aux urgences continue d'être relativement important.
Oui.
Donc on essaie de renvoyer un certain nombre de patients à la maison quand ils n'ont pas de signes graves, mais pour un certain nombre d'entre eux, en particulier des personnes qui ont des pathologies associées, qui sont un peu âgées, un peu fragiles, on les garde à l'hôpital.
Pour l'instant, ça tient, pas besoin de transfert de patients ou de choses de cette nature-là, comme on a pu voir désormais à la Timone à Marseille.
Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, en Île-de-France, on ne transfère pas encore de patients ailleurs de l'Île-de-France, mais on pense que dans les semaines à venir, il va falloir qu'à l'intérieur de l'Île-de-France, on transfère d'un hôpital à un autre, parce qu'on a toujours une partie de l'Île-de-France qui est plus touchée qu'une autre. Ça a dépendu des vagues. Là, pour l'instant, c'est assez homogène, mais on va voir un peu ce qui se passe dans les semaines à venir.
Et vous, Saint-Antoine, vous feriez partie des hôpitaux qui pourraient accueillir, quitte à déprogrammer d'autres opérations, ou des hôpitaux qui auraient besoin de coups de main de collègues ?
Alors en fait, très souvent, on a accueilli plutôt qu'envoyé vers l'extérieur des patients qui devaient être hospitalisés. Donc on va voir comment ça se passe dans les semaines à venir. A priori, on est plutôt un hôpital qui accueillons les personnes de l'extérieur. Les personnes de l'extérieur du centre de Paris, par exemple, on a beaucoup accueilli du 94 ou du 93.
Oui, les départements limitrophes. Quel est, Karine Exactement. Lacombe, le profil des patients à la fois dans votre service à vous et en réanimation, en soins critiques ?
Alors en réanimation, on a principalement des personnes non vaccinées, donc on a quand même le sentiment que quand on n'est pas vacciné et qu'on attrape le Covid, on va faire une forme plus grave. En hospitalisation hors réanimation, on a un peu des deux, sauf que les personnes vaccinées sont en général des personnes qui n'ont pas eu leur troisième dose ou qui sont extrêmement fragiles, personnes âgées, qui sont immunodéprimées ou qui sont en surpoids. Et puis bien sûr, on a une bonne partie de patients non vaccinés qui malheureusement sont ceux qui sont le plus touchés proportionnellement en France.
Est-ce que vous partagez le sentiment qu'on entend de plus en plus nettement de médecins hospitaliers d'un ras-le-bol face à ces arrivées de patients non vaccinés qui ont été prévenus, Dieu sait si on en parle beaucoup. Est-ce que vous partagez ce ras-le-bol, cet agacement, cette fatigue, je dirais ?
C'est vrai que ce n'est pas du tout le même profil que les patients qu'on a pu recevoir auparavant. Les patients qu'on recevait auparavant, alors avant la vaccination ou même au tout début de la vaccination, étaient des patients qui étaient plutôt reconnaissants du système de soins et de ce qu'on pouvait leur offrir en termes de traitement. Maintenant, les patients que l'on reçoit qui ne sont pas vaccinés sont plutôt des personnes qui sont un peu anti-système et qui nous en veulent quelque part d'être à l'hôpital et qui refusent assez facilement toute prise en charge médicale. On a par exemple pour certains d'entre eux la possibilité de leur donner des anticorps monoclonaux qui peuvent marcher et en général ils refusent. Donc on a déjà eu des patients qui ont refusé et qui du coup sont passés en réanimation, se sont aggravés, sont passés en réanimation. Et donc on a, c'est pas du tout la même relation médecin-malade que ce qu'on a pu avoir avant. On a une relation qui ne s'établit pas sur la confiance et qui rend notre travail au quotidien beaucoup plus compliqué.
Est-ce que vous voyez arriver des patients Omicron, si j'ose dire? Gabriel Attal disait il y a quelques minutes que c'est désormais une contamination sur 3 à Paris. Est-ce que vous voyez arriver à Saint-Antoine des patients Omicron ?
Oui, bien sûr. Ça fait à peu près une grosse semaine qu'on commence à voir arriver de l'Omicron. Nous, on a même le sentiment que c'est plus qu'un patient sur 3. On pense que c'est un peu plus de 50%, enfin au moins 50%. Et vous savez qu'on a tout le temps un décalage entre le moment où les patients arrivent, qu'on les prélève, où on a le résultat du criblage et puis évidemment du séquençage qui est encore plus long. Donc on pense qu'on est au-delà de 30%. On est bien plutôt vers les 50%, voire plus.
Est-ce qu'il
Donc, probablement, avant la fin de l'année, il sera largement majoritaire.
Est-ce qu'il y en a en soins critiques? Pour l'instant, les premières données qu'on peut avoir semblent indiquer, mais avec toute la prudence du monde, qu'il y a moins de formes graves. Est-ce que vous en avez des patients Omicron en soins critiques?
Alors là, pour l'instant, on n'en a pas.
Oui.
Et effectivement, c'est l'impression qu'on a que bien qu'il soit beaucoup, beaucoup plus contagieux, n'entraîne pas plus de formes graves, ce qui serait quand même une très bonne nouvelle, parce qu'on est quand même encore au sommet de la cinquième vague. On sait que la sixième vague, en tout cas de contamination, va être de l'Omicron. Et donc, cette sixième vague qui sera plus importante en termes de contamination, que le virus est plus infectieux, il est plus transmissible, on n'a pas du tout envie qu'il soit en plus grave en termes de signes cliniques. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, on est plutôt optimiste, entre guillemets. Vraiment, toute précaution gardée.
Avec toutes les réserves. Allez, nous allons au standard. Question de Marianne pour vous, Karine Lacombe. Bonjour, Marianne.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Nièvre, je crois.
Exactement, oui. La Nièvre.
Nous vous écoutons.
Je voulais poser une question au médecin,
oui.
À Madame Lacombe, pour savoir, pour les vaccins. Personne n'en parle. Est-ce que les vaccins sont vraiment efficaces, en fait? Est-ce qu'ils sont efficaces que de 3 mois, 4 mois? C'est moi, quand j'ai fait ma troisième dose en septembre, le médecin m'a dit, dans 6 mois. Hein. Donc, je lui ai dit, c'est une plaisanterie. Il m'a dit, pas du tout.
Hein. Alors,
c'est cette question que j'aurais lui posé. Parce que moi, j'ai mes 3 doses. J'ai une confiance totale en la science. Et je me pose cette question. Je me dis, est-ce que les vaccins sont valables? Parce qu'on peut contaminer et on peut être contaminé.
Karine Lacombe, réponse à la question de Marianne.
Alors, je ne sais pas quelle troisième dose vous avez eue, madame. Si c'est une dose parce que vous avez une maladie particulière qui nécessite 3 doses pour renforcer vos défenses immunitaires, ou si vous avez eu la troisième dose 6 mois après la deuxième.
Alors, attendez, on va lui demander tout de suite. Marianne, c'était quoi? C'était une dose de rappel classique, si j'ose dire?
Ah oui, une rappel classique. J'ai rien, j'ai aucune comorbidité. Mon seul handicap, c'est mon âge.
Bon, voilà la précision apportée, Karine Lacombe.
D'accord, très bien. Qui n'est pas un handicap, l'âge, bien sûr. Alors, effectivement, ce qu'on a montré avec l'Omicron, c'est que une troisième dose qui augmente de façon extrêmement importante les défenses immunitaires permettent d'avoir une meilleure réponse face au Omicron que quand on n'a que 2 doses. C'est la raison pour laquelle on a accéléré ces dernières semaines l'accès à la troisième dose pour tout le monde, à cette dose de boost. Et vous êtes mieux protégé qu'avec 2 doses. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette troisième dose, en fait, a surtout un impact sur votre risque d'aller à l'hôpital et puis éventuellement de décéder. Vous attraperez peut-être le virus, parce que malheureusement, la protection contre le virus, contre le fait d'attraper le virus, n'est pas de 100%. En revanche, elle est très élevée pour vous éviter d'aller à l'hôpital, et c'est ce qui est quand même le plus important.
Marianne, est-ce que la réponse est claire? Parce que votre question était très détaillée et très posée, donc dites-moi.
Oui, moi, la question que je m'interroge, moi, j'ai eu mon rappel normal en septembre, et est-ce que c'est toujours efficace?
Mais alors,
tout à fait. 4 mois plus tard, c'est toujours efficace. Vous n'avez pas besoin de 4e dose à ce jour.
Voilà, le médecin qui lui a dit rendez-vous dans 6 mois, est-ce que ça fait partie des choses qui sont en réflexion? C'est-à-dire qu'il faudra un coup de booster très régulièrement? Ou est-ce qu'on en est sur ce point?
Là, pour l'instant, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. On a évalué l'efficacité de la 3e dose, donc du booster, et qui, même contre le Omicron, s'avère efficace. Mais est-ce qu'il va falloir faire une 4e dose, une 5e dose, qui sont plutôt des doses de rappel ou de boost? Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir.
Anaïs, au standard. Bonjour, Anaïs.
Oui, bonjour, je vais essayer de faire bref. Merci de prendre ma question. Je voulais savoir, en fait, on entend beaucoup parler des personnes non vaccinées aujourd'hui en réa, avec donc des difficultés d'accepter en fait la situation qu'il y ait des gens non vaccinés en France, bien que ce ne soit pas encore obligatoire. Aujourd'hui, les non vaccinés, dont je ne fais pas partie, j'en connais, qui du coup n'ont pas encore accepté l'idée de se faire vacciner. Visiblement, ça marche pas très bien la culpabilité, en fait, c'est pour ces gens-là, pour se faire vacciner. Et donc, du coup, je voudrais savoir un petit peu la part, parce qu'on entend assez peu cette précision, la part en réa chez les personnes non vaccinées, la part des personnes qui ont moins de 65 ans et qui sont a priori, en tout cas, sans comorbidité et donc a priori moins à risque.
Voilà, la part des un peu plus jeunes, qui sont peut-être encore plus difficiles à convaincre quand on est un peu plus jeune, on a l'impression que tout va bien. Karine Lacombe, sur les tranches d'âge, vous avez des patients de tous les âges?
Bah, écoutez, on parle bien de la réanimation. Hein, donc, oui. En soins critiques, la réanimation, actuellement, la moyenne d'âge, elle n'a pas tellement varié. Hein, elle est, en fonction des mois, entre 60 et 65 ans. Alors, pas la moyenne, mais la médiane.
Oui.
C'est-à-dire que 50% des personnes qui sont en réanimation ont moins de ce seuil-là. Et donc, actuellement, pour le mois de décembre, je pense que c'est aux alentours de 63-64 ans. C'est-à-dire que 50% des personnes hospitalisées en réanimation, donc on a 3 000 personnes actuellement à peu près en réanimation pour un Covid, eh bien, en gros, 1 500 ont moins de 63 ans. Et donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable. Hein, et ce sont des personnes qui, dans leur grosse majorité, ne sont pas vaccinées et qui, probablement, ne seraient jamais allées en réanimation s'ils avaient été vaccinés.
Serge, sur l'appli France Inter, je suis persuadé que pour la Saint-Sylvestre, un couvre-feu est indispensable si on veut échapper à la catastrophe, c'est-à-dire l'engorgement des hôpitaux. Qu'en pensez-vous? Et j'ajouterais, voilà, le gouvernement qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir, en tout cas, qui n'exclut pas de nouvelles mesures de restriction. Est-ce que ça vous semble nécessaire, nouvelles mesures de restriction, et notamment couvre-feu à la Saint-Sylvestre?
Ça, c'est très difficile. Le fait d'appliquer des restrictions, c'est vraiment une décision qui est politique. Nous, les scientifiques, on donne les éléments pour que le pouvoir politique prenne les décisions. Actuellement, ce que l'on peut dire, c'est que on a une augmentation très brutale et très importante du nombre de contaminations qui est due à l'Omicron. On a une augmentation progressive des arrivées à l'hôpital. Est-ce que cette augmentation va être exponentielle ou est-ce qu'elle va être plutôt régulière, qui nous permet, nous, de nous adapter? C'est encore un peu tôt. Et c'est vrai qu'on est obligé tout le temps de faire la part, en fait, la balance entre les libertés individuelles et l'envie d'avoir une vie qui tend vers la normalité et puis la pression sur le système de soins. Moi, je pense qu'on a encore quelques jours pour voir ce qu'il en est. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est de continuer là pendant ces 10 jours à se vacciner pour ceux qui n'ont pas eu la troisième dose, c'est de se faire les tests, autotests, extrêmement important dès qu'on a le moindre risque que l'on ait cas contact, ne pas hésiter à s'isoler évidemment si on est infecté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont infectées sans symptômes et qui ne s'isolent pas. En conséquence, donc il faut jouer le jeu pour protéger les autres. Et puis j'espère qu'on arrivera quand même à passer un 31 dans des conditions tout à fait raisonnables.
Autotest de précaution, y compris si on n'a pas de symptômes et qu'on va voir parents ou grands-parents un peu âgés?
Ah oui, absolument. Je pense que c'est vraiment indispensable. On a la chance cette année, au contraire des autres années, d'avoir beaucoup d'armes à notre disposition pour, malgré le virus, continuer à vivre. La vaccination, les autotests en particulier. Donc oui, il faut absolument se dépister. Pour Noël, pour le 1er janvier, il faut se dépister le jour où on va être en contact avec des personnes, avec un grand nombre de personnes, en particulier des personnes fragiles.
Mireille, au standard sur la situation des hôpitaux en cette fin d'année. Bonjour Mireille.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Je suis fan de vos émissions, donc je suis heureuse d'être prise.
Ah bah merci.
Voilà, donc moi ma question c'est, un petit peu dans le désordre, pourquoi pas de débat contradictoire sur la vaccination, sur la prévention, sur les soins dès les premiers symptômes? Et pourquoi ne rappelle-t-on pas que la fermeture de lits en milieu hospitalier continue? Par exemple, il y en avait, je crois, 5 700 lits en 2020 ont été fermés. Alors, tout est fait pour mettre en place une discrimination entre citoyens, enfin de mon point de vue, voilà, entre vaccinés et non vaccinés. Et ça me choque beaucoup de n'entendre qu'une seule voix, qu'un seul son de cloche.
Merci Mireille pour votre intervention. Commençons par les fermetures de lits. Karine Lacombe, est-ce que il y a eu des fermetures de lits à Saint-Antoine qui aujourd'hui font que c'est encore plus difficile de répondre à l'afflux de patients?
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de lits qui sont fermés par manque de personnel, en particulier paramédical. Alors, les raisons de ce manque de personnel, elles sont multiples. Hein. Il y a des personnes qui sont parties à la retraite et les postes n'ont pas été pourvus. Non pas parce qu'on ne veut pas les pourvoir, mais parce qu'il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas d'infirmiers ou d'aides-soignants qui viennent prendre des postes à l'hôpital public. Il y a également un certain nombre de personnes qui sont absentes, alors pour plein de raisons, souvent parce qu'elles ont le Covid, et dans ce cas-là, ça fait 10 jours, au moins 10 jours d'absence, et puis il y a aussi des pathologies plus longues, on a les congés de maternité qui ne sont pas remplacés, etc., etc. Donc effectivement, ça pèse beaucoup sur le système de soins, ces fermetures de lits. Et ce d'autant que c'est pas comme la première vague où on n'avait que du Covid, c'est que maintenant, on a toutes les autres pathologies. Et par exemple, dans le service que je dirige, où on a une petite quarantaine de lits, eh bien, depuis le début de l'épidémie, on a au minimum 10 lits consacrés au Covid. Covid, alors qu'avant on prenait toute autre sorte de pathologie. Et puis là, on est passé maintenant à la moitié de nos lits en Covid. C'est autant de lits qu'on ne peut pas consacrer à la prise en charge d'autres pathologies. Donc où est-ce qu'ils vont, les patients qui sont malades d'autres choses? Eh bien, souvent ils traînent, la pathologie traîne, oui, à être prise en charge. Et ça, ça pèse encore plus sur le système de soins, en particulier sur tout ce qui entoure l'hôpital.
Pas de débat sur la vaccination, pas assez, nous dit Mireille. Alors on arrive à la toute fin, j'imagine que la réponse ne va pas la satisfaire, mais si j'ose dire, la science a tranché.
Oui, je pense que il n'y a pas de débat contradictoire à avoir, parce que la science, ce n'est pas qu'une affaire de débat. La science, c'est une affaire de progression. Progression dans le temps de l'acquisition des connaissances scientifiques. Et au bout de 24 mois de confrontation à l'épidémie, on a acquis beaucoup de connaissances en termes de prévention, et on sait que ce sont les mesures non pharmaceutiques comme le port de masque, la distanciation sociale, etc. qui marchent. Les vaccins, on a montré que ça avait un impact majeur sur les hospitalisations et les décès. Et puis ensuite, les traitements. Certains traitements ont montré leur efficacité et d'autres traitements ont montré leur inefficacité dans des études bien conduites. Donc je pense que maintenant l'horizon thérapeutique s'est vraiment éclairci et on sait beaucoup mieux ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Merci Karine Lacombe d'avoir répondu aux questions des auditeurs. 13h45.